Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Le
Grand
Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 18 décembre 2014. Bienvenue à cette émission. Le Grand Dialogue réfléchit aujourd'hui sur le thème suivant, la place des jeunes dans le dialogue social au Mali. Nous aurons, comme d'habitude, trois thèmes et trois invités sont là également pour débattre donc de cette émission. Sidi Ouldou Bagna, président des jeunes arabes du Mali. Nous avons également Adam Diko, du mouvement, présidente du mouvement d'action des jeunes du Mali et membre également du Conseil national des jeunes du Mali. Nous avons comme troisième invité Gwenola Passemé Rajo du Centre pour le dialogue humanitaire. Je ne me trompe pas ? Bienvenue à vous et le Grand Dialogue commence tout de suite.
Studio Tamani.
Je suis Famoussa Sidibé, Gagné Kanté est à la technique. Le Centre pour le dialogue humanitaire vient de boucler un séminaire de deux jours sur la question de l'inclusivité des jeunes dans le dialogue social à Bamako. Selon donc les conclusions de cette rencontre, la jeunesse représente plus de 60% de la population malienne. Elle représente donc une véritable force motrice pour le Mali, mais elle est moins représentée dans les instances de décision. Alors, pourquoi cela, Adam? Avec vous, on commence.
Ok, merci beaucoup. Merci pour la question. Vous avez bien dit, la jeunesse compte plus de 60% de la population malienne. Elle est moins représentée, mais par contre, elle est représentée dans les instances de prise de décision. Cela n'est pas dû à la faute des jeunes. La volonté est là, mais des fois, il faut reconnaître que le jeune manque d'expérience pour être à ce niveau de prise de décision. Et l'un des problèmes aussi, c'est que il n'y a pas assez d'importance qui est accordée aux jeunes. Les vieux se disent que oui, c'est des jeunes, ils n'ont pas assez d'expérience, et ils ont encore du temps, ils doivent apprendre et avoir de l'expérience. Donc du coup, tout ceci constitue des facteurs de blocage pour les jeunes pour pouvoir être à ces niveaux d'instance de prise de décision. Mais je pense qu'il y a des changements. Puisqu'on sent que la priorité des gouvernements, même de la société civile, c'est vraiment mettre l'accent sur la participation effective des jeunes dans toutes les instances de prise de décision. Il y a des difficultés, mais nous pensons que ça va aller. Et on est en train de tout faire, les plaidoyers, les mobilisations à tous les niveaux pour pouvoir être à tous les niveaux de prise de décision. C'est un débit. C'est une lutte continuelle et nous allons continuer à nous battre pour pouvoir être à tous les niveaux. Et Inch'Allah, on ne parlera plus de 10% ou de 5%, mais j'espère qu'on va parler des 30% de représentation des jeunes à toutes les instances de prise de décision.
Sidi Ouldou Bagna, président des jeunes arabes du Mali.
Votre avis. Merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier et féliciter le studio Tamani pour chaque fois nous donner l'occasion d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est de dire que c'est vrai, dire qu'aujourd'hui, la jeunesse représente plus de 60% de cette couche, mais elle reste encore vulnérable, parce qu'elle reste encore cette couche la plus martyrisée, la plus traumatisée, et la plus, malheureusement, qu'on arrive à vagabonder parce que
instrumentaliser
dans toutes les instances. C'est vrai, aujourd'hui, cette division, je me suis posé la question et j'ai dit d'abord, il faut parler sur la dépendance de cette jeunesse. Est-ce que cette jeunesse, elle est vraiment indépendante? Parce que quand vous voyez les affiliations d'une jeunesse par rapport à des structures, par rapport à des partis, par rapport à des sections de prise de décision, on se demande est-ce que la vision de la jeunesse n'est pas de suivre une ligne directrice qui a été tracée par des aînés ou pas a été tracée par une hiérarchie, que cette jeunesse existe dans les instances, mais est-ce qu'elle est vraiment dans les prises de décision? Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui c'est vrai. Mais il faut d'abord, avant de faire une critique, il faut faire de l'autocritique pour savoir qu'aujourd'hui nous sommes 60% de cette population. Mais disons-nous une vérité, c'est que si nous n'avons pas voté pour quelqu'un, la personne ne sera pas quand même présidente de ce pays. Mmh. La personne ne sera pas députée de ce pays.
Donc la voix des jeunes compte.
La voix des jeunes compte, mais il faut que la voix des jeunes puisse être plus unie, solidaire, pour que ça puisse, les synergies d'action doivent se mettre ensemble pour que ça tire une conclusion fiable pour la jeunesse.
Alors, Passemé, vous avez un regard beaucoup plus neutre par rapport aux deux autres intervenants autour de cette table. Quel est votre avis par rapport à l'implication des jeunes dans leur avenir?
Merci beaucoup de nous avoir invités ce soir. Nous, en fait, l'idée qu'on avait, c'était d'inclure davantage les jeunes dans le processus de paix. Au niveau du Centre pour le dialogue humanitaire, nous travaillons sur la facilitation au dialogue et nous avons constaté donc que les jeunes étaient beaucoup moins représentés dans le processus de paix, et d'où l'intérêt de ces deux jours d'atelier où nous avons essayé de réfléchir avec des jeunes venus de Kidal, Tombouctou, Gao et Bamako, de leur place et de leur rôle dans ce processus. Voilà, je pense que ça a été deux jours extrêmement riches. Hein. On a eu des débats de très grande qualité. La jeunesse s'est vraiment montrée telle qu'elle est, c'est-à-dire une jeunesse très dynamique, très impliquée, très engagée et qui a vraiment envie de participer de manière positive et constructive à l'édifice de la paix au Mali.
Alors Adam, vous êtes à la fois présidente d'un mouvement et également membre d'un autre organe, le Conseil national des jeunes, et vous êtes la présidente du mouvement
d'action des jeunes.
Mouvement d'action des jeunes. Avec quel regard est-ce que vous avez vécu cette crise? Pensez-vous que vos actions servent à quelque chose?
Quand vous me posez la question avec quel regard j'ai vécu la crise, je dirais que je l'ai vécu comme tout jeune malien, parce que être membre d'une organisation, être présidente d'une organisation, on a tous vécu la crise malheureusement d'une manière atroce, d'une manière vraiment inattendue. Donc là, il y a vraiment pas de différence. Par contre, les actions que nous avons menées, parce que on s'est dit, il faut plus jamais ça. Et à chaque fois, c'est les mêmes choses qui reviennent. À chaque fois, rébellion, chaque 5 ans et tout. On s'est posé la question, surtout au niveau du Conseil national de la jeunesse, mais qu'est-ce qui n'a pas passé? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième fois. Mais il est temps.
On espère que ce sera la dernière.
Oui, on espère. Raison pour laquelle on est en train de tout mettre en œuvre pour que vraiment que ça puisse être la dernière fois. Et pour que ça puisse être la dernière fois, il faut qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui n'a pas pu marcher les autres fois. Et ce qui est clair, c'est que la jeunesse n'était pas au cœur des processus de paix lors des dernières guerres, malheureusement. Et nous pensons que vraiment cette fois-ci, la jeunesse n'a pas le droit de rester à l'écart de ce processus de paix qui est déjà amorcé par nos autorités. Donc il faut prendre part, il faut prendre son destin en main, parce qu'une chose est de reconnaître que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays, mais c'est surtout le présent, parce qu'on a vu lors de la crise, c'est surtout les jeunes qui ont subi, c'est surtout les jeunes qui ont souffert, et ce sont ces jeunes-là qui sont en train de prendre des armes. Je dirais des Maliens, parce que nous, on s'est dit que ce soit des jeunes des groupes armés, des jeunes de l'armée, c'est la jeunesse malienne, et c'est la jeunesse malienne qui a pris des armes contre et s'entretient, et
c'est
nous pensons que vraiment, et qui ne doit plus se répéter. Et nous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, on s'est dit on a un rôle de veille à jouer, pas pour l'État, pas pour les groupes armés, mais pour la jeunesse dans son ensemble.
Alors les jeunes ont été utilisés, instrumentalisés dans le Nord pour différents, pour des objectifs que l'on connaît. Aujourd'hui, quel bilan peut-on tirer de cette instrumentalisation de la jeunesse, précisément dans le Nord, avec vous, Sidi Ould Bagna, président des Jeunes Arabes du Mali?
Merci. En ce qui concerne quand même, il est établi que de l'autre côté, composé de plus de 80% des jeunes, mieux que certains composants de la société civile, qui sont parfois d'ordre corporatif. L'avantage que ces jeunes ne comprennent même pas parfois la mission qui leur est confiée parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Mmh. En tant que jeunes, nous avons les mêmes sensibilités et nous avons le même mode de langage où nous avons demandé qu'on puisse laisser la jeunesse du Mali se retrouver avec y compris les jeunes des mouvements des groupes rebelles pour essayer de faire un rapprochement entre jeunes, de parler le langage de jeunesse et de voir comment on peut se retrouver. Mais aujourd'hui, ce qui se passe réellement, c'est que ceux qui se tirent d'ici sont des Maliens, mais de camps différents. C'est dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que pourquoi instrumentaliser l'enrôlement de ces jeunes ont été très faciles. Ont été très faciles dans un pays où le chômage chronique est une réalité. Mmh. Où aujourd'hui, les mouvements armés, ils proposent une terre neuve. C'est-à-dire, ils proposent un lendemain meilleur. Mmh. Ils proposent, vraiment, ils tendent une main. Et quand tu vis dans une zone, et la majeure partie du travail qu'on a eu à faire au niveau de l'association des jeunes arabes du Mali, c'est que la majeure partie des jeunes qui se sont enrôlés sont des jeunes nomades.
Alors, peut-on établir aujourd'hui un dialogue avec ces jeunes-là?
Oui, mais je crois qu'il n'est jamais trop tard pour faire un rapprochement. Il peut toujours faire un rapprochement pour amorcer. On ne peut pas quand même faire le commando de les avoir en un clin d'œil. Mais c'est un processus, comme le processus de sortie de crise en train de se faire. Il est important aujourd'hui qu'on apporte à ces gens de la chaleur, cette chaleur de citoyenneté qui peuvent manquer de... Quand vous voyez quelqu'un qui est peut-être d'avis différent de vous, il va falloir que vous l'approchiez pour comprendre qu'est-ce qui est en train de l'instrumenter. Qu'est-ce qui est en train de l'apporter à penser à au contraire que toi. Mais celui qui est contraire à toi, excusez-moi, je suis un peu arrimé, celui qui a un avis contraire à toi, il n'est pas ton ennemi. Mmh. Il n'est pas automatiquement ton ennemi, mais il a le droit d'avoir un avis contraire à toi. Mmh. Mais il faut approcher pour comprendre ce qui l'influence, à comprendre, par exemple, peut-être que lui, il va te ramener à la raison, au lieu que toi, tu l'amènes à la raison, mais quand même, il y aura un rapprochement pour comprendre vraiment et parler le langage de la vérité, pour dire que vous êtes en train d'être instrumentalisé par des gens pour leur propre intérêt.
Alors, Passemé Rajo, Gwenola Passemé Rajo du Centre pour le Dialogue Humanitaire, vous avez organisé cette rencontre entre les jeunes du Mali, c'est des jeunes du Nord comme du Sud. Mmh. Alors, quel programme pensez-vous mettre en place pour que ce dialogue qu'on recherche puisse s'établir avec ces jeunes que l'on peut qualifier de jeunes égarés?
Alors, c'était une première initiative qu'on prenait vis-à-vis des plus jeunes, parce que nous travaillons avec, au niveau du Centre pour le Dialogue Humanitaire au Mali, nous travaillons avec différents groupes. L'objectif du Centre, c'est vraiment de faciliter le dialogue, donc entre toutes les parties qui le demandent et qui ont besoin de facilitateurs dans ce dialogue. Donc là, c'était une première initiative avec les jeunes. C'était une initiative tout à fait réussie. Donc, nous avons pris l'engagement vis-à-vis des jeunes de poursuivre ce dialogue avec ce groupe de jeunes, mais aussi en y associant d'autres jeunes. Il a été clairement exprimé par les jeunes qui étaient à l'atelier, donc d'établir un dialogue avec les jeunes du Nord et du Sud, donc de rétablir aussi d'établir ce contact, parce que il est vrai que certains jeunes du Nord ne connaissent pas obligatoirement les réalités du Sud. De la même manière, les jeunes du Sud ne connaissent pas obligatoirement les réalités du Nord. Donc il y a un vrai désir de dialogue au niveau de la jeunesse. Une autre initiative perspective, ce sera certainement de, comme disait Sidi tout à l'heure, parce qu'ils sont, ils ont des frères, ils ont des amis, ils ont des cousins, ils ont des oncles qui peuvent être dans des groupes armés. C'est aussi d'établir un dialogue entre les jeunes des groupes armés qui constituent quand même c'est quand même essentiel. Mmh. Enfin, les groupes armés sont essentiellement composés de jeunes. Adam disait tout à l'heure, on a des amis qui sont partis rejoindre ces groupes armés, donc c'est vraiment important qu'ils puissent se parler avec ceux qui n'ont pas pris des armes et leur montrer que une autre voie est possible, en fait, hein, sans faire d'angélisme. Il est vrai que les jeunes ont pris les armes pour différentes raisons, mais il est vrai que pour certains jeunes, comme disait Sidi tout à l'heure, bon, on leur a proposé presque un statut, un statut social en prenant les armes. Mmh. Donc voilà.
Alors qu'il n'en est rien.
Voilà. Et enfin, une troisième initiative sur laquelle on a réfléchi avec les jeunes, c'est aussi d'établir un dialogue, et ça je crois que c'est aussi très très important, entre les aînés et ce qu'on appelle, on dit, les aînés et les cadets.
Mmh. Voilà. Pour éviter le conflit de génération.
Exactement. Et ça, je crois que les jeunes sont très très demandeurs d'établir un dialogue avec les aînés qui ont des choses à leur dire. Mmh. Et les jeunes ont quand même souvent nous disent, les aînés ne nous écoutent plus, et quand on discute avec les aînés, ils nous disent, oui mais les jeunes ne nous écoutent plus non plus. Donc voilà,
peut-être j'espère qu'on sera écouté dans la deuxième partie.
Voilà.
Nous allons en pause et nous reviendrons.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani, c'est les réseaux sociaux, mais c'est aussi les stations partenaires. Nous en avons 20 au total, sinon 23 dans tout le pays, et 3 à Bamako, Radio Guintan, Binkan et Liberté. Aujourd'hui, nous débattons d'un sujet qui intéresse les jeunes, la participation des jeunes dans le dialogue social. Et nous sommes à la deuxième partie donc de cette émission du Grand Dialogue. Et cette deuxième partie est consacrée à la jeunesse et à son engouement pour le leadership. Nous avons 3 invités pour cela. Sidi Ali Ould Bagnan, président des jeunes arabes du Mali. Passeme Gwenola, Passeme Rajo. J'espère que je ne vais pas me faire tirer les oreilles après cette émission, tellement je prononce mal votre nom, madame, du Centre pour le dialogue humanitaire. Et nous avons une jeune également avec nous, Adam Diko, du Conseil national des jeunes, mais également présidente du mouvement complété d'action des jeunes. Voilà, j'espère que je vais y arriver d'ici la fin de cette émission. Alors donc, nous sommes à la deuxième partie, jeunesse et leadership. Adam, vous êtes, je l'ai dit, présidente d'un mouvement. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est facile de gérer tout ça?
Alors, de gérer quoi?
De gérer sa jeunesse, ce poids de responsabilité et l'envie d'être écouté.
C'est facile de le gérer quand l'envie est là. Ça peut être difficile, surtout pour une fille, hein, parce que vous savez, nous vivons dans une société qui est tellement ancrée dans les réalités socio-culturelles. Et des fois, quand on voit le leadership d'une femme comme quelque chose qui n'est pas recommandé, on dit plus à une femme que sa place c'est plus dans le foyer que plutôt à la publique, en train de dire aux gens, faites comme ça, ne faites pas comme ça. Mais comme je l'ai dit, c'est facile si on a envie, hein. Si l'envie est là, ça peut être très facile.
Et quand ça on apporte des résultats.
Oui, quand on est jeune, vous savez, surtout dans un pays comme le Mali, des fois assise, tu te dis que tu as des obligations vis-à-vis de ta génération. Parce que il faut reconnaître que notre génération et la génération ancienne, on n'a pas eu de cadeaux. Je peux dire que c'est des générations sacrifiées. Je dirais que notre génération est une génération sacrifiée. Mais on doit travailler pour que la génération qui vient après nous ne soit pas sacrifiée, que cette génération puisse profiter de ses droits pleinement. Parce qu'il faut reconnaître que la jeunesse malienne, oui, on a des droits et tout. Il y a beaucoup d'instruments juridiques nationaux et internationaux qui sont là, qui protègent nos droits, qui font la promotion du leadership des jeunes. mais en réalité qui ne sont pas appliquées. Donc du coup, au lieu que nous, en tant que jeunes leaders, qu'on passe à l'étape supérieure, on est plutôt là à demander, à quémander la mise en application de nos droits. Alors qu'il faut reconnaître un droit,
c'est quelque chose. Il y a des devoirs aussi.
Il faut reconnaître qu'un droit, c'est pas quelque chose qu'il faut quémander. C'est quelque chose qu'il ne faut pas. On négocie pas un droit, on arrache. Mmh. Un droit, c'est quelque chose qui est appliqué. Et quand je parle de droit, le droit, chaque droit va avec un devoir. C'est ce qu'on nous a appris quand j'étais au Parlement des enfants. Mmh. On dit, parce qu'à chaque fois quand on dit les droits des enfants, il y a des vieillards qui disent, mais vous oubliez que vous avez des devoirs. Et nous, la formule qu'on avait trouvée, c'était de dire que chaque droit est accompagné d'un devoir. Quand tu dis que toi, tu as droit à l'éducation, il faut reconnaître que ton devoir aussi, c'est de travailler bien à l'école, d'amener des bonnes notes. Mmh. Donc du coup, ça va avec, chaque droit va avec un devoir. Mais il n'est pas, c'est pas facile pour les jeunes leaders, parce que ceux qui sont là, ce qu'on est en train de représenter, parce que c'est ce que les gens oublient des fois, les jeunes leaders ne sont pas là pour leur personne, mais ils représentent tout un groupe.
Ouais, tout un groupe
et des fois, c'est très mal compris, parce qu'on essaye de récupérer les leaders, parce qu'on pense que si on a celui-là, les autres vont le suivre, alors que si tu as un poids, c'est très dur pour toi, parce que tu n'es pas là pour toi. Ce n'est pas ton envie, mais c'est l'envie des autres. Tu dois défendre les autres et des fois, tu dois diriger les autres sur le bon chemin, et qui n'est pas du tout facile. Donc, si tu n'es pas bien entouré, bien conseillé, bien formé, des fois, ça peut être très difficile.
Mon devoir m'oblige à vous prendre la parole.
Ok, merci beaucoup.
Alors, Sidi Ali Ouldo Bagna, vous venez d'entendre Adam tout à l'heure qui parlait de ce leadership-là qu'on recommande aux jeunes. Vous êtes également président d'un organe, président de l'Association des jeunes arabes du Mali. Quel est votre plus grand défi aujourd'hui en tant que président de cette association?
Merci pour la question très pertinente, très complexe. Et c'est de dire d'abord que moi, mon organe est un peu spécifique parce que c'est quand même une organisation communautaire qui regroupe des jeunes sédentaires comme nomades, des fois des gens très éloignés qui n'ont jamais vu des grandes villes, qui n'ont jamais compris quoi que ce soit et qu'on devait se mettre à leur pied pour leur faire comprendre de quoi il s'agit. De la même manière où il faut faire comprendre aujourd'hui aux jeunes citadins, de leur comprendre aussi les réalités et les enjeux. C'est de dire que aujourd'hui gérer les jeunes, la jeunesse, le leadership, ça nous crée énormément de problèmes en milieu jeune. Parce que quand vous voyez trop de créations, je me demande s'il n'y a pas, peut-être 100 associations de jeunes créées tous les jours. Je me pose la question. Trop de créations. Aujourd'hui, il faut remercier quand même l'initiative du Conseil national de la jeunesse qui a fédéré en son sein la majeure partie, pour ne pas dire qui devait avoir le monopole de la jeunesse en République du Mali. Mais vu le leadership qui pose encore des problèmes, chacun veut être leader.
Mmh. Et ça pose des problèmes.
Ça pose des problèmes parce qu'on n'est pas leader. Qu'on doit être leader. On est leader dans les faits. On est leader dans les actions. On est leader dans les propos. On est leader dans la rue. On est leader, même si on est derrière, on est leader. Le leadership, ça ne se discute pas. Ça se travaille et ça se mérite. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les regroupements de jeunes, dès que chaque trois personnes constituent une association, des fois même deux, des fois même une personne constitue une association. C'est ça qui fait qu'il disperse un peu la force de cette jeunesse. C'est ce qui permet encore, qui facilite la manipulation de cette jeunesse. Et en fin de compte, on se retrouve à un moment donné, on se dit, oh là là, et voilà que la jeunesse perd tout. La jeunesse n'a rien perdu. La jeunesse est dans tout. Mais chacun pose une pierre d'une manière disparate. Au lieu de remettre en synergie d'action toutes les forces pour se retrouver, pour que la voix de la jeunesse porte, on parle en rang dispersé, parce que je refuse que tu parles en mon nom. Je veux prendre mon indépendance, je parle en mon nom en tant que moi-même. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ça divise les associations, ça divise les regroupements et ça ne crée pas une dynamique. Et quand vous avez tout de suite, ça crée énormément de problèmes. Quand vous voyez sur une activité, les jeunes se désolidarisent de cette activité pour que ça échoue. Parce que le leader qui est là, on veut le mettre vraiment à nu. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est difficile, mais je crois que des fois, on doit avoir le dos large. Ceux qui gèrent aujourd'hui des associations et surtout de jeunesse doivent avoir le dos large pour ne rien. Le leader, c'est celui qui n'entend rien, c'est celui qui ne voit rien, mais c'est celui qui ne comprend rien, mais c'est celui qui fait semblant de tout, de ne rien entendre, mais qui prend acte de tout ce qui se passe et qui joue toujours au consensus.
Alors, entre les tabous sociaux et les problèmes d'égo, la jeunesse voit ses efforts dispersés. Vous êtes aujourd'hui membre d'un centre pour le dialogue humanitaire, Gwenola Passemé Rajo. Quel est votre avis sur la responsabilité des jeunes aujourd'hui? Pensez-vous que les jeunes du Mali sont assez responsables?
Alors, ce que j'ai vu hier, je les ai trouvés extrêmement responsables. Je pense qu'ils sont responsables en général. Ils ont vraiment conscience de leurs responsabilités. Mais comme disait aussi bien Adam que Sidi, en effet, je pense qu'il y a une dispersion. Il y a peut-être parfois un besoin de coordination. Et c'est ce qu'on essaye aussi de. Enfin, on les encourage à ça parce que c'est vrai que c'est en réunissant nos forces qu'on arrive mieux à défendre nos idées, c'est pas en étant dispersé. Et il y a un peu cette tendance à vouloir créer son association, son groupe pour être connu. Mais c'est un signe aussi, je pense que c'est un signe de dynamisme, c'est un signe d'engagement finalement. Ça peut être vu, Sidi l'expliquait bien, que il y a de l'opportunisme parfois, mais il y a aussi une volonté d'agir. Et parfois, pardon. Et parfois, les jeunes peuvent aussi avoir besoin de créer leur organisation parce qu'ils se disent oui, mais on n'est pas assez bien représenté ou voilà. Et je pense que justement, c'est à travers la parole, à travers les rencontres, à travers le dialogue qu'on peut comprendre où chacun peut trouver sa place au sein d'une organisation. Et ils sont tout à fait voilà. Nous, on va pas travailler là-dessus avec eux parce que je pense que les jeunes savent exactement ce qu'ils doivent faire dans ce sens-là. Ils sont suffisamment responsables pour avoir cette analyse-là aussi vis-à-vis de ce qui se fait au niveau des organisations de jeunes. Mais moi, je voudrais revenir sur un élément qui n'est pas un petit élément, mais on parlait tout à l'heure, Adam l'a soulevé, c'est vraiment le rôle des jeunes femmes. Parce que c'est vrai que on a tendance, quand on parle des jeunes ou des organisations de jeunes, à penser jeune homme. C'est vrai, hein. Autant on a des organisations de femmes qui sont des femmes leaders, qui sont très en avant et qui agissent et qu'on connaît. Mais dans les organisations de la jeunesse, on a souvent tendance à penser aux jeunes hommes. Voilà. Et ceux qui prennent les armes, en général, sont des jeunes hommes. Donc c'est vrai que voilà, on s'intéresse aux jeunes hommes. Et je crois que vraiment, et Adam est vraiment une représentative en fait de cette jeune génération de jeunes femmes qui veulent prendre les choses en main et qui travaillent en plus. Moi, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est de voir ces jeunes garçons, enfin ces jeunes hommes et ces jeunes femmes travailler ensemble de manière tout à fait naturelle. Mais il faut quand même soutenir et insister, parce que moi je le vois quand j'organise par exemple des ateliers. Si je demande à un jeune homme de me proposer un certain nombre de personnes pour faire partie de l'atelier, naturellement, ou à 90% du temps, il va me proposer des jeunes hommes. Voilà. Et il faut quand même que je lui dise, tu sais, j'aimerais aussi avoir une certaine parité dans le groupe. Genre. Voilà, exactement. Et finalement, naturellement, on me dit, oh ben oui, bien sûr. Mais voilà, le premier réflexe, c'est déjà de penser aux jeunes garçons, aux jeunes hommes, et ensuite, on pense aux jeunes femmes. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment répéter ce discours parce que la société, eh bien, voilà, elle se fait avec les hommes, avec les femmes, et que ce n'est pas contre les hommes ou contre les femmes, c'est ensemble qu'on va réussir à construire quelque chose.
Quel lobby pour les femmes ! Nous allons en pause et nous reviendrons autour de cette table.
Une réaction ?
Un avis ?
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci de nous rejoindre. Studio Tamani, c'est aussi notre site web www.studiotamani.org et retrouvez désormais cette émission, les productions du Grand Dialogue sur le net à travers YouTube et également bientôt sur notre site web car cette émission est aussi enregistrée et vous aurez la vidéo disponible dans un peu de temps. Alors, cette émission est consacrée aujourd'hui à la place des jeunes dans le dialogue social au Mali. Nous avons comme invité aujourd'hui Sidi Ouldo Bagna, président des Jeunes Arabes du Mali. Nous avons également Adam Diko, présidente du Mouvement d'Action des Jeunes et également membre du Conseil National des Jeunes, et Gwenola Passeme Rajo du Centre pour le Dialogue Humanitaire. Alors, cette troisième partie est consacrée à la jeunesse et à l'avenir qui l'attend. Alors, aujourd'hui nous avons comme thème donc cette question de l'implication de la jeunesse dans le dialogue social. Alors, que reste-t-il aujourd'hui comme espoir aux jeunes du Mali, Adam?
Je pense que l'espoir est très permis. Tout d'abord, il faut que la jeunesse s'approprie du projet d'accord. Comme je l'ai dit, à chaque fois, les mêmes choses reviennent. Il est temps qu'on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché la dernière fois? Et pour ça, puisque lors des derniers accords, les jeunes n'étaient pas associés, les préoccupations des jeunes n'étaient même pas connues à plus forte raison, prises en compte. Donc cette fois-ci, il faut que les jeunes s'approprient d'abord des contenus du projet d'accord, élaborer les recommandations, remettre ça aux autorités et surtout jouer un rôle de veille.
Vous parlez là du projet d'accord de paix qui devrait être signé entre le gouvernement malien
et les groupes armés. Il faut que les jeunes s'approprient du contenu de cet accord-là, chose qui est en train de se faire à travers des différentes rencontres. Donc, il faut, après ça, élaborer des recommandations comme quoi, après lecture et analyse des points qui sont dans le projet d'accord, le jeune recommande 1, 2, 3, et après, le rôle de veille sur l'application de ces accords, parce qu'il faut le reconnaître, ceci est un défaut. On signe un accord, c'est pas mis en œuvre, évidemment, les mêmes problèmes reviennent. Et quand les problèmes sont là, c'est la jeunesse qui en peur. Et on dit, vous savez, c'est pas de notre faute, c'est le gouvernement qui était chargé. Oui, le gouvernement est chargé, mais il faut qu'il y ait un organe de veille qui est là, qui doit veiller à l'application de ces textes-là, parce qu'il faut le reconnaître, la jeunesse, c'est pas que l'avenir, c'est surtout le présent. Il faut qu'on joue notre rôle aujourd'hui pour pouvoir bien préparer le futur. On peut pas s'asseoir pour dire que l'accord a été signé, on va attendre la... Non, pas du tout. Il faut qu'on commence à jouer notre rôle. Et je pense que dans ce sens-là, l'espoir, il est vraiment permis parce que les jeunes ont déjà commencé ces consultations-là. Et je remercie de passage l'organisation Dialogue Humanitaire qui a initié ce dialogue hier avec les jeunes, non seulement des jeunes du Conseil National de la Jeunesse, mais d'autres jeunes qui nous a permis de savoir quelle est l'aspiration des jeunes, qui nous a permis de lire le contenu en détail, parce qu'il faut le reconnaître, les jeunes ne le lisent pas.
Alors, jusqu'à quel niveau est-ce que vous, jeunes du Mali, êtes impliqués dans ce pourparlers?
Il faut reconnaître que les jeunes sont représentés à différents niveaux par rapport à ces pourparlers d'Alger. Les jeunes ont été présents en Alger par rapport aux négociations, mais ce que la jeunesse demande, c'est une représentation favorable. Parce que ça ne sert à rien d'amener deux personnes sur 1000 personnes. Ils vont parler des préoccupations des jeunes, mais est-ce que les préoccupations des jeunes seront prises en compte? Si ce n'est pas pris en compte, ce n'est pas de leur faute. Et on va dire que les jeunes étaient représentés alors que c'était une représentation qui ne dit pas son nom, mais pas du tout. Donc c'est la raison pour laquelle on le demande. Et hier, on l'a demandé clairement dans les déclarations qu'on a élaborées à la fin de l'atelier. Aussi, une représentation favorable dans la commission Vérité et Réconciliation. Parce que la jeunesse a un rôle essentiel à jouer, vous l'avez dit. La jeunesse compte plus de 60% de la population, ça veut dire que tout ce qui va être fait, va être fait pour la jeunesse et doit se faire avec la jeunesse.
Sidi,
merci.
Vous êtes le président des jeunes arabes du Mali.
Absolument.
L'implication des jeunes dans ce projet d'accord.
L'implication des jeunes dans ce processus a des degrés différents. Pour dire qu'aujourd'hui, les jeunes ont été présents à Alger, que ce soit du côté du Mali, où nous avons seulement 2% de l'État. Les communautés du Nord ont apporté des jeunes. Les mouvements armés, qui sont je ne sais pas au nombre de combien, ont tous amené des jeunes. Mais quel est le bénéfice que la jeunesse tire dans cette implication? Parce que chaque courant amène sa jeunesse pour chanter sa vision. Donc nous allons dire aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une manière qu'on préférerait même peut-être ne pas avoir de jeunes que d'avoir de jeunes parce que ça divise encore des jeunes. Parce que ces gens-là vont se retrouver. Ce sont des Maliens qui vont revenir. Quel qu'en soit, nous allons faire 100 ans de guerre, mais nous allons faire un jour de paix. Et les gens vont vivre ensemble et de manière courtoise. C'est pour dire que ça ne peut qu'encore remettre le couteau dans la plaie et dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont en même temps victimes et en même temps actrices de cette en cas de guerre. Parce que c'est ces jeunes qui animent le front sur le terrain, dans la salle. Et aujourd'hui, quand vous voyez cette implication, je me demande, mais la jeunesse garde de l'espoir. Nous gardons vraiment l'espoir que bientôt, après les accords de paix, la jeunesse va reprendre son langage. Je crois qu'elle va avoir sa liberté et parler de son langage pour que les gens se retrouvent.
Okay.
Je voudrais remercier d'abord encore HD d'avoir organisé ce cadre qui n'a jamais été et qui a permis aux gens de se retrouver, aux gens de
Alors,
parler.
Quand vous dites HD, il faut bien préciser que c'est le centre.
C'est le centre de dialogue humanitaire, absolument, on l'appelle HD.
On risque voilà. De faire la confusion à la régie ici.
Ok, d'accord. Donc vraiment, je voulais les remercier d'avoir créé ce canal pour que les jeunes se retrouvent et que les jeunes essayent de comprendre. Parce que si vous comprenez, même ici, les gens ils ont des avis différents.
Alors Sidi, vous êtes président d'une association communautaire, l'association des jeunes arabes du Mali. Pensez-vous aujourd'hui que les jeunes du pays, après toutes ces déchirures, que les jeunes précisément du Nord puissent un jour faire la paix?
Vous savez, les...
Et comment?
Comme on le dit, les blessures sont nombreuses, et parfois profondes, et les plaies encore fraîches. Mais quand bien même blessé, comme on le dit, la vache ne réussit-elle pas à donner du lait au veau? C'est pourquoi il faudrait qu'à la force des armes, nous parviendrons à opposer nos passions pour le Mali. Le Mali, fort dans sa diversité et dans son métissage multiséculaire, et toutes choses qui font sa grandeur. Dire que le Malien a perdu son repère. Nous avons perdu notre repère d'antan, notre repère de civisme, notre repère de patriotisme. Aujourd'hui, les gens se posent la question, quel est le sens de ces mots, du Nord au Sud. Ceux qui l'avaient l'ont perdu, ceux qui l'ont pas cherché. C'est de dire qu'aujourd'hui, mais c'est un grand peuple. Quand vous voyez aujourd'hui, il faut savoir que ce peuple a existé, ce peuple existe avant le Mali. Depuis 1076, après la chute du Ghana, ce peuple vit ensemble. Mais on se pose la question, pourquoi est dans l'harmonie? Et on se pose la question, depuis l'indépendance, il y a des problèmes entre ces peuples, entre ces communautés. On se pose la question, pourquoi? Bien avant que les gens vivent ensemble en harmonie, en symbiose. Mais depuis le Mali, depuis 1963, les guerres ont commencé entre communautés. Et chacun croit que son mal, c'est l'autre communauté. Et on met les gens dos à dos. Avec d'abord une gouvernance inappropriée, qui n'aspire pas à tout le monde. Parce que cette gestion de politique qui a toujours géré ce pays et inapproprié par rapport à l'aspiration de ce peuple.
Merci beaucoup, Sidi. Alors aujourd'hui, à cause de ce conflit, des personnes sont hors du pays, les réfugiés, il faut en parler. Quelle action peut-on mettre en place pour faire en sorte que ces réfugiés-là puissent retourner un jour au pays? Je m'adresse à Gwenola Passemé, Rajo du Centre de Dialogue Humanitaire.
Oui, la question des réfugiés est une question importante. Évidemment, elle est importante pour les réfugiés qui sont à l'extérieur, enfin évidemment, qui sont à l'extérieur du pays, mais aussi, ce qui est important, c'est de voir comment on va préparer leur retour dans leur communauté. Et ça, c'est aussi tout un travail qui est à faire. Et bon, nous sommes au centre, nous sommes bien conscients de ces questions-là, mais bon, il y a aussi pas mal d'organisations, notamment les organisations des Nations Unies qui travaillent sur ces questions. Nous avons le projet aussi d'aller rencontrer les réfugiés et d'aller discuter avec eux et peut-être d'établir aussi du dialogue, notamment au niveau des femmes. Moi, on avait prévu de travailler au niveau des femmes et au niveau des jeunes qui sont quand même les principales victimes de cette situation. Et qui vivent dans des conditions assez difficiles en tant que réfugiés ou en tant que déplacés pour ceux qui n'ont pas quitté le pays mais qui ont dû se déplacer. Donc c'est vraiment... C'est une question très importante et je crois que il est vrai que pour que ces personnes puissent retourner dans leur communauté, évidemment il faut aussi le retour de la paix et il faut qu'elles puissent retourner dans de bonnes conditions et que il puisse y avoir un bon accueil. En fait, c'est surtout ça qui est important. Bon, il y a déjà, j'ai cru comprendre que il y avait déjà des réfugiés qui revenaient dans certaines localités, mais tant que tout le monde n'est pas rentré, la situation n'est pas satisfaisante.
Alors Adam, en tant que membre du Conseil national des jeunes, qu'est-ce que cela vous fait quand vous savez aujourd'hui que des jeunes sont à l'extérieur du pays et qui ne peuvent malheureusement pas rentrer immédiatement au pays?
Ça me fait mal, hein, ça nous fait très mal. Parce que c'est des jeunes du Mali, c'est des jeunes qui ont l'amour de ces pays, mais qui se trouvent malheureusement hors de ces pays, malgré eux. Ça nous fait très mal. Et des fois, on se sent impuissante parce qu'on a envie de les ramener, on a envie qu'ils viennent au Bercail, qu'on puisse travailler ensemble, qu'ils puissent contribuer au développement du pays. Mais on est impuissant face à cette situation parce que il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué à ce qu'ils quittent le pays et malheureusement ça fait très mal. C'est une situation qui nous interpelle tous en tant que jeunes, en tant que membres de la société civile, même les autorités, qui nous interpellent tous. Et je pense que la société civile et les autorités sont en train de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent retourner rapidement chez eux. Nous, au niveau du Conseil national, on ne peut que prier pour qu'ils puissent vraiment rentrer très bientôt et négocier des projets aussi pour pouvoir aller les rencontrer, discuter avec eux, parce que ça leur fait du bien. Le fait qu'ils voient que les gens qui sont à l'intérieur se soucient de leur bien-être, parce que c'est des gens qui vivent dans des situations vraiment très précaires et qu'ils ont envie de discuter avec les gens, partager de leur quotidien. Et je pense que ce sont ces genres d'activités que nous allons initier, aller les rencontrer, discuter avec eux et prier à ce que cet accord-là soit définitivement signé et qu'on puisse revenir à une situation normale.
Alors Sidi Ali Ould Bagna, président des Jeunes Arabes du Mali, vous avez le dernier mot pour ce débat. Mmh. Alors je vous donne juste une minute pour votre appel. Quel est votre sentiment aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez à dire aux différents protagonistes sur le terrain dans ce conflit malien?
Je voudrais, parce que cette question qui a été posée aux dames qui m'ont exclu, est extrêmement important, parce que j'ai dit les réfugiés aujourd'hui qui sont partis ne sont pas partis par plaisir. C'est des gens qui ont subi beaucoup d'amalgame, beaucoup de stigmatisation, qui ont subi beaucoup de pertes en vies humaines, qui ont été qualifiés de tous les maux d'Israël. mais c'est de dire que ceux qui sont partis ne sont pas, et ils ne sont pas contre le Mali. Mais aucune condition n'est réunie aujourd'hui pour leur retour. Bon, pour venir au dernier mot, c'est de dire que, comme on l'a dit, la guerre naisse et finisse dans l'esprit des hommes, comme le dit le penseur, mais je pense que l'esprit de la jeunesse malienne, qu'on doit anéantir l'esprit de haine et de vengeance. Cette jeunesse doit être un symbole de la relance, d'une relance de paix. Et du rapprochement.
Merci Sidi. Merci beaucoup.
Et le fer de lance.
Merci beaucoup à vous.
De la résilience.
Ainsi prend fin cette émission, une émission consacrée à l'implication des jeunes dans le dialogue social au Mali. Je rappelle que nous avons organisé cette émission à l'issue de ce séminaire que le Centre pour le dialogue humanitaire a réalisé à Bamako avec l'implication de la société civile et des jeunes du Mali. Alors nous sommes donc à la fin de cette émission, une émission qui vous a été présentée par Famoussa Sidibé. À la réalisation, il y avait Ousmane Diadié Touré et Rokia Danyoko. Gagné Kanté était à la technique. À la régie vidéo, il y a Salim Diouara. Il tient bien à ce qu'on prononce son nom aujourd'hui. Alors, nous vous disons à demain pour un autre débat.
Grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
Ouamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.